savoir, Louise Touret.
Être et savoir, c'est le magazine de l'éducation de France Culture. Aujourd'hui, que nous a transmis Françoise Dolto? Que nous a-t-elle appris sur l'enfance, sur la manière d'éduquer les enfants, sur la manière de les écouter, sur la manière de jouer son rôle de mère et de père? Et je ne mets pas mère au premier plan pour rien. Et cela à une époque où être parent est devenu peut-être plus compliqué et sûrement plus intéressant. Je parle du moment où Françoise Dolto a commencé à nous parler à tous. Et puis parce que Françoise Dolto était d'abord une psychanalyste, qu'a-t-elle apporté à la psychanalyste, qu'a-t-elle apporté aux enfants en souffrance, à tous les enfants? C'est un héritage complexe que celui d'une clinicienne, d'une théoricienne aussi. Et c'est resté dans les mémoires d'une femme de radio qu'on va interroger aujourd'hui dans Être et Savoir. Et à la fin d'Être et Savoir, un artiste nous raconte son enfance et souvent il évoque les méthodes éducatives de son temps.
C'était violent, désagréable et contre-productif, comme on dit aujourd'hui.
C'est la leçon de choses de Sophie Bobert avec cette semaine le dessinateur Claude Ponty. Cet auteur est né en 1948. Entre violence de l'autorité et du savoir et éblouissement extraordinaire tout de même, retrouvez-le en fin d'émission.
Lorsque l'enfant paraît, c'est un nouveau rendez-vous que vous propose désormais France Inter. Chaque jour, Françoise Dolto va venir à ce micro et grâce à vos questions, grâce à vos témoignages, nous parlerons comme cela tous les jours pendant une dizaine de minutes de vos enfants. Alors je crois qu'il faut préciser tout de suite quelque chose. Françoise Dolto est psychanalyste, il ne faut pas avoir peur des termes, je crois. Et il faut dire également qu'il n'est pas question d'offrir une consultation personnelle par la radio. C'est bien votre avis, François Dolto, oui. Ça ne serait pas sérieux de toute façon.
Non, c'est tout à fait mon avis. Mais bien que je sois psychanalyste, j'espère que j'ai aussi du bon sens et que je pourrai peut-être, mais je n'en suis pas sûre, vous aider, vous, en parlant avec vous, et aider des pères et des mères dans des difficultés assez fréquentes et qui précèdent de beaucoup des ennuis plus graves pour lesquels on amène les enfants chez les médecins, chez les psys. Mais beaucoup de choses commencent à bas bruit et les parents ne les prennent pas au sérieux, ou plutôt les médecins ne les prennent pas au sérieux. Et les parents savent qu'ils sont déjà ennuyés, leur enfant a changé, ils voudraient savoir comment faire. Et très souvent, ils pourraient trouver comment faire s'ils réfléchissaient un peu. Et ce que je voudrais, c'est aider les parents à réfléchir à ce qu'ils pourraient faire.
La psychanalyse, le bon sens, les parents, les enfants. Aider les parents à réfléchir, Françoise Dolto. Comment ne pas commencer avec ce souvenir radiophonique, enfin souvenir pour les grands-parents d'aujourd'hui, on est tout de même en 1976, qui explique peut-être qu'on hésite à parler de psychanalyse à la radio, comme le dit Jacques Pradel, qui était donc face à Françoise Dolto dans l'émission Lorsque l'enfant paraît. Caroline Eliachev, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychanalyste, hein, on n'a pas peur de le dire.
Il n'y a pas peur.
Vous êtes également pédopsychiatre. Les auditeurs de France Culture vous connaissent bien, vous avez fait de nombreuses chroniques sur notre antenne. Vous avez également écrit des scénarios, beaucoup d'ouvrages derniers en date. Eh bien, Françoise Dolto, une journée particulière, c'est publié chez Flammarion. Une journée particulière, c'est un ouvrage qui a une forme assez spécifique. Vous inventez une journée où tout est vrai. C'est Françoise Dolto qui vit cette journée et on est un peu on voit dans son esprit. Elle se souvient, elle se projette aussi dans des événements à venir, ce qui permet d'évoquer la Françoise Dolto clinicienne, mais aussi théoricienne, la Françoise Dolto lacanienne, et puis bien sûr la Françoise Dolto face aux enfants, mais aussi à la radio. Caroline Chef.
Oui, c'est, enfin, j'ai choisi cette forme parce que d'abord les carnets de cette période n'ont pas été gardés, donc ça me donnait une certaine liberté. Comme elle a gardé tellement de choses, c'était exceptionnel qu'elle n'ait juste que ces carnets de cette époque-là n'aient pas été gardés. Donc effectivement, dans cette journée, tout est vrai. Et vous savez que dans une journée, on est à la fois femme, mère, professionnelle, qu'on pense au passé, au présent, au futur. Et donc ça me permettait d'évoquer effectivement beaucoup d'aspects de sa vie en les concentrant. C'est pas une biographie, j'aurais été totalement incapable de, enfin je suis pas biographe, je suis pas historienne, mais ça me permettait de raconter beaucoup de choses et puis aussi de choisir ce que j'avais envie de raconter.
Toutefois, vous n'êtes pas une biographe, mais le livre est bourré de références.
Oui, parce qu'elle a laissé énormément de choses, voilà. Énormément de choses. C'est-à-dire, il y a des archives considérables. Elle a raconté beaucoup de choses. Donc, effectivement, quand je dis que tout est vrai, je crois que c'est vrai.
Marie Desplechin, bonjour.
Bonjour.
Vous écrivez pour les adultes et pour les enfants de tous âges. Vous intéressez aussi beaucoup à l'enfance. C'est pour ça qu'on vous invite. Alors, il y a 10 ans, vous aviez participé à un hors-série Télérama et on a retrouvé cet article où vous dites vous formulez des critiques qu'on peut adresser à Françoise Dolto. Vous nous direz si vous les
dans cette émission. En tout cas pour alors après je peux avoir d'autres réflexions, mais en tout cas pour l'émission de radio
de Lorsque l'enfant paraît.
Lorsque l'enfant paraît, oui.
Non, mais c'est intéressant, c'est comment vous l'avez reçu. Votre article dans ce numéro de Télérama est très intéressant, parce que justement, voilà, il s'agissait du centenaire, donc on était censé raconter, etc. Donc vous apportez une autre vision critique, et Françoise Dolto était, bon, évidemment, elle n'était pas là pour vous répondre, c'est dommage, mais je pense qu'elle aurait aimé discuter avec quelqu'un comme vous, qui justement n'était pas béat d'admiration, etc. Donc moi, j'ai apprécié beaucoup.
Et on peut formuler une première interrogation tout de suite, parce qu'on peut reprendre les termes de Françoise Dolto dans cet extrait-là, qu'on a entendu le tout début, le lancement de cette émission, Lorsque l'enfant paraît. Françoise Dolto parle de bon sens. Est-ce qu'on peut parler dans le même mouvement de bon sens et de psychanalyse? C'est quand même une question que vous posez, Marie Desplechin.
Alors, j'ai écouté vraiment très soigneusement le crayon à la main plusieurs fois et j'étais stupéfaite. Parce que ça a l'air très gentillé comme ça, en dépit du ton très souvent un peu mère tape dure qu'elle a. C'est pour ça que l'accusé d'avoir ouvert la politique de l'enfant roi, c'est complètement idiot. Et donc, elle introduit cette émission en disant « Oui, la psychanalyse, pou, elle répète, hein, ce n'est pas la psychanalyse, c'est le bon sens. » Et on entre dans quelque chose qui caractérise toute cette émission et une bonne partie aussi de ce qui se dit d'elle et de ce qu'elle fait, qui est la confusion. Et ça, c'est quelque chose qui met extrêmement mal à l'aise. Parce que, en fait, ce qu'elle dit dans cette émission, enfin, ce qu'elle propose comme solution, la manière dont elle répond aux parents, sur le ton de la mamie très gentille, n'est absolument pas du bon sens. C'est-à-dire que la manière dont elle analyse les cas, on peut très bien dire d'où ça vient. On peut dire d'où ça vient parce qu'elle n'est pas ni la seule, ni la première des psychanalystes pour enfants. Avant elle, il y a eu Anna Freud, Melanie Klein et Winnicott, qui sont quand même les trois grandes figures. Elles s'inspirent énormément, dépit des disputes qu'il y a eu de Winnicott. Elles ne sont jamais citées. C'est-à-dire, Françoise Dolto, elle arrive, elle tombe du ciel comme une espèce d'incarnation qui fait la révolution en France. C'est quand même particulier. Et donc, dans cette émission, on ne sait jamais où on est. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si on a affaire à quelqu'un qui analyse des choses avec les outils de la psychanalyse la plus dure, disons, ou alors à quelqu'un qui répond gentiment, le papa doit faire ci, la maman doit faire ça.
Et pour resituer les choses, cette émission, c'est vraiment ce qui a popularisé la figure de Françoise Dolto, qui l'a fait connaître au plus grand nombre. Parce que bien sûr, il y a des écrits théoriques, enfin ils sont un peu plus complexes, voilà, et bien antérieurs, il y a des études de cas, et ils ne se sont pas du tout de la même eau, Caroline Eliachef. En écrivant votre livre, vous avez aussi voulu, je le redis, refaire entendre la parole d'une femme qui était aussi une clinicienne et une théoricienne.
Oui, absolument. Alors, j'entends tout à fait ce que vous dites. Et en même temps, elle n'est pas tombée du ciel, elle le savait. Hein. C'est-à-dire quand
oui,
on...
mais oui.
Pardon. Non, mais je comprends que vous exprimez ce que vous avez ressenti en écoutant les émissions. Et j'entends tout à fait ça. Théoricienne et clinicienne, oui. Et ce qui est le plus frappant, alors quand on l'a lu, c'est que ce qu'elle dit dans ses émissions, elle le disait depuis les années 50. C'est tout à fait étonnant. Et alors bon, il y a de multiples exemples. Et effectivement, à un moment, ça a pris en masse. Alors à un moment qui n'est pas n'importe quel moment, qui est effectivement après mai 68, etc. Mais elle, imperturbablement, pendant toutes ces années, dans des articles qu'elle publiait, soit dans des revues destinées aux psychanalystes ou aux psychiatres, soit à l'école des parents, par exemple, mais elle a toujours dit la même chose. Et quand vous dites, elle dit aux parents, faites ceci, faites cela, là, je suis pas d'accord, parce que c'est quelqu'un qui avait à cœur de transmettre ce que les enfants lui avaient appris, et pas de dire, faites ceci, faites cela. Alors, évidemment, c'est en reprenant des choses, en reprenant telle ou telle émission, vous pouvez être choqué par son ton, etc. Mais au fond, ces théories sont évidemment freudiennes. Elle doit beaucoup à Winnicott et à Ferenczi, elle le reconnaît tout à fait, pas du tout à Mélanie Klein, parce qu'elle n'était pas du tout kleinienne et elle appréciait pas beaucoup Mélanie Klein. Mais ce qu'elle a apporté sur le plan théorique pour la psychanalyse, c'est un développement des périodes très précoces, c'est-à-dire avant l'âge de l'Œdipe, avant 5 ans, 7 ans, etc. Et en même temps, elle reste effectivement très freudienne. Et la question du bon sens, je pense qu'elle a eu tort de dire ça, de dire qu'elle avait du bon sens. Elle avait tout sauf du bon sens. Elle était totalement atypique. Atypique dans son époque, atypique comme psychanalyste et atypique dans sa façon d'écouter.
Je suis tout à fait d'accord. Et je pense que ce qui est à venir et ce qui arrivera avec toutes les ouvertures des archives, c'est une vraie grosse biographie et par quelqu'un qui ne l'aura pas connue.
Absolument,
parce que ça devait être quelqu'un qui avait un charisme tellement puissant que les gens qui l'ont accompagné, comme vous l'avez accompagné, moi je le vois complètement de l'extérieur, hein, mais oui. On a l'impression qu'ils sont comme des lapins dans les phares, c'est-à-dire il y a une espèce de geste où elle est une thaumaturge et elle fait comme des impositions des mains. Alors elle parle et cet enfant qui pleurait au bout d'un moment et on a cette même histoire à répétition. Quand vous le voyez de l'extérieur, moi, je n'y crois pas.
Voilà. Parce qu'il y a effectivement une forme d'intuition exceptionnelle. Je voudrais qu'on y revienne. Mais d'abord, je voudrais qu'on s'arrête sur la figure de Françoise Dolto. Comment elle était? Comment elle parlait? À quoi elle ressemblait? Et le rôle peut-être de la radio. Et puis, je vais faire référence à un autre pays où il y a finalement une histoire assez similaire. Alors, je vais vous lire un extrait d'un livre qui s'appelle Jour barbare. C'est un livre que j'ai énormément aimé. Ça parle de surf. Hein. L'auteur s'appelle William Finnegan. Il raconte sa vie de journaliste, mais essentiellement à travers le surf et puis sa vie d'enfant. Chez nous, dans la mesure où mon père travaillait tard, les corrections incombaient à ma mère. Elle menaçait parfois de nous tuer. Je saute un court extrait. Peu après, ce qu'on regardait jusque-là comme normal changea brusquement. Kevin, donc c'est son frère cadet, eut droit à son lot de raclées, me semble-t-il, mais Colin, beaucoup moins, et Michael, pas du tout. Concernant les punitions corporelles, le consensus sur leur nécessité s'était effondré en Amérique, et ce, pour un bon moment. Publié en 1946, le livre révolutionnaire « Baby and Child Care » du docteur Benjamin Spock était devenu le manuel de référence de ma mère, et le docteur Spock lui-même, un de ses héros. Sa popularité avait lentement modifié l'opinion publique en défaveur de la fessée. Est-ce que finalement, c'est pas un peu la même chose qui est arrivée avec Françoise Dolto et dans plein de pays, des figures? Voilà, comme ça, ont incarné un discours sur l'enfance, un discours qui était nouveau, qui correspondait à l'époque. Et moi, la question que je me pose, c'est pourquoi il s'est incarné en France dans une dame qui ressemblait un peu à une grand-mère avec ses petits gilets et ses cheveux gris et qui avait comme ça cet aspect extrêmement rassurant tout en ayant un discours beaucoup plus complexe comme on l'a entendu, Caroline Elatchev.
Écoutez, je ne sais pas. Alors, ce que vous dites, il faudrait qu'il y ait une biographie par quelqu'un qui ne l'a pas connue. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas connue. Ce que je voudrais dire me concernant, c'est que moi, je l'ai connue, mais vraiment tardivement. C'est-à-dire que quand je raconte que j'ai assisté à sa consultation, j'avais déjà plus de 40 ans. Donc, c'est pas du tout elle qui m'a formée. Donc, je n'étais pas dans cette doltolatrie, on va dire, mais pas du tout. Et autre chose que je voudrais dire, c'est que ce qui m'a alors véritablement fascinée en assistant à ces consultations, c'est à quel point elle ne savait pas. à quel point elle était totalement désemparée. Et quand on dit son intuition géniale, etc., à certains moments, elle ne savait plus. Et elle nous disait, est-ce que vous auriez quelque chose à dire, etc. Donc c'est un petit peu l'inverse, si vous voulez, de ce personnage intuitif, etc. Alors je suis absolument contre cette idée qu'elle était. On lui a beaucoup reproché d'être intuitive. En réalité, quand on parlait avec elle, de temps en temps, elle faisait effectivement des interprétations qui paraissaient fulgurantes et qu'elle était totalement capable d'expliquer ligne à ligne, on va dire, en fonction des théories qu'elle avait élaboré. Voilà, mais ça faisait carrément de l'effet, c'est vrai.
Parce que c'est spectaculaire. Et si même dans votre ouvrage, Caroline Ilyachev, parce qu'à la fin, il y a un épilogue où vous racontez une scène avec elle. Et c'est, d'ailleurs, je ne veux pas le raconter, c'est très émouvant.
Oui, c'est la dernière séance de psychanalyse qu'elle a fait avec des enfants. Nous y assistions depuis 2 ans.
Et c'est très impressionnant.
Oui, mais ce qui est impressionnant, bon, c'est certes l'enfant, etc., mais c'est elle qui est impressionnante. C'est-à-dire, Elle est totalement désemparée, ne comprenant rien. Voilà. Moi, la principale leçon que je retire d'elle, alors qu'encore une fois, je l'ai connue tardivement, c'est que cette impuissance et cette non-compréhension sont les instruments de travail du psychanalyste. Voilà. Alors une fois qu'on a absorbé ça, on s'est dit mais pourquoi faire ce métier impossible ?
Alors c'est pas le sujet de l'émission. Marie Desplechin, sur cette incarnation Françoise Dolto, parce que je tiens quand même à ma question précédente. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, que la France ait choisi cette femme pour porter aussi la cause des enfants ? Parce que c'est ce qu'on a beaucoup dit de Françoise Dolto.
En fait, je sais pas. C'est ce que j'attendrais d'une biographie, en fait. C'est-à-dire qu'une biographie qui contextualiserait voilà, son apparition, sa formation, ses liens avec Lacan, et qui le ferait sans... Ce que je comprends très bien, hein, c'est cette fascination pour le rôle qu'elle a joué d'une manière, je sais pas, voilà, parce qu'elle était là, et certainement dû à son caractère. Je ne pense pas du tout... Enfin, l'idée, l'image qu'elle va donner de cette grand-mère compréhensive, je pense que c'est très très loin de la vraie personne. Parce que c'est une personne,
c'est très, très loin.
Pas forcément pour le meilleur, mais qui a un caractère beaucoup plus complexe. Et là, on pourrait voir. Mais là, pour le moment, moi, je ne peux rien dire. Je la vois à cet endroit où elle est. Après, il y a des choses. Alors, j'ai parlé de ce qui m'énervait un petit peu. Enfin, de ce qui m'énervait. Je me disais, en vous écoutant, il faudrait confier ces émissions à Mariette Darigan pour qu'elle fasse une analyse lexicologique. Parce que moi, j'avais relevé quand elle dit... Il ne faut surtout pas, ça va être une catastrophe si, certainement pas faire ça. Je vous assure, ce serait vraiment très intéressant de voir comment...
Une sémiologue, vraiment.
Voilà, il ne faut surtout pas lire des livres, ne parlez pas du tout aux voisins. Enfin, et tout ça, d'ailleurs, n'est pas forcément très contraignant, parce que ça part un petit peu dans tous les sens. Donc après, les gens qui appartiennent à leur époque, en l'écoutant, font leur sauce, ce qui est certainement aussi qui relève du processus.
Mais était-elle si directive, Caroline Ilyachev ?
Elle était absolument pas directive. Mais elle parlait de cette façon que vous avez notée, de façon un petit peu péremptoire. Hein, et donc voilà. Alors quand vous dites pourquoi elle, effectivement, il faut contextualiser parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'autres personnes de son époque qui ont eu des rôles extrêmement important. Je veux dire, quand même, la pédopsychiatrie de l'époque s'est transformée. Vous avez eu Alice Miller, vous avez eu des tas de Maud Manoni. Enfin, il y a beaucoup d'autres personnes. Enfin, évidemment, là, on se focalise. Évidemment, j'ai écrit un livre sur elle, donc aujourd'hui, on parle d'elle. Mais elle est dans un contexte et elle a été incroyablement contestée.
C'est elle qui a fait des émissions de radio et qui a pénétré... même si ça n'a pas duré si longtemps, et qui a pénétré dans l'intimité des foyers. On a l'oreille et le cœur des gens. On accède aussi bien différemment que par des parutions, des livres et des conférences.
Bien sûr, alors ces émissions de radio ont effectivement joué un rôle très important. Elles n'ont duré que 2 ans,
oui.
Hein, ce qui est quand même extraordinaire. Donc je raconte pourquoi ça s'est arrêté, ce que personne ne sait. Jacqueline Baudrier, je pense qu'elle n'avait pas Françoise Dolto à la bonne, et qu'elle a voulu... transformer cette émission, etc. Et elle l'a arrêtée du jour au lendemain, on va dire. Françoise Dolto, elle, était tout à fait prête à continuer. Elle était même tellement prête à continuer qu'elle avait arrêté de recevoir de nouveaux patients en disant, à partir du moment où j'ai un rôle comme ça, social, je ne peux plus recevoir de patients. Elle ne l'avait pas dit, mais elle a arrêté de recevoir des patients pour continuer la radio, et les émissions se sont arrêtées. Vous savez, il n'y a pas beaucoup d'émissions. Les émissions occultes dont on parle aujourd'hui, c'est des émissions qui durent 10 ans, 20 ans, etc. Ça a duré 2 ans. Donc c'est incroyable. Et personne ne faisait d'émissions comme ça. Personne ne faisait d'émissions comme ça. Elle l'avait fait précédemment. Winnicott l'a fait sur la BBC. D'autres l'ont fait.
Et le Dr Spock aux États-Unis, voilà, comme absolument. Raconté par William Finnegan.
Il y a tout un contexte. Et effectivement, moi, je me suis centrée sur elle parce que c'est l'objet de ce livre. Mais vous avez tout à fait raison de dire que il faut voir la chose vraiment dans le contexte. Ces émissions de radio lui ont valu beaucoup de déshonneur, on va dire, dans le milieu psychanalytique. Hein, c'était affreux, abominable de faire ça, etc., etc. Elle dévoyait la psychanalyse. Elle était pas trop appréciée. Hein.
Alors, une époque où le regard sur l'enfance a changé, mais peut-être aussi le regard sur la parentalité. Je vous invite à écouter un autre extrait d'une autre émission de radio. Là, on est sur France Culture en 1986.
J'ai voulu donner un titre au texte de ces souvenirs flash d'une vie depuis l'enfance, et je l'ai appelé « Les yeux ronds ». Parce que c'est vraiment ça que je me sens être depuis mon enfance, un être humain en forme de fille, qui a toujours eu les yeux ronds devant tout ce qu'elle voyait, surprise, questionnée partout. Et je continue d'être tout le temps questionnée partout, et en particulier par les enfants, leur comportement qui est toujours langagier, et qu'il faut décoder pour comprendre ce qu'ils veulent nous dire, et en même temps par leurs vraies questions, quand en parole ils nous en posent, qui sont toujours surprenantes, et à laquelle on a trop vite fait quand on répond « Mais t'es bête, voyons, c'est comme ça ». Mais non, la vie, ça... C'est... En effet, les adultes, nous prenons les choses comme si ça allait de soi, mais c'est que ça ne va pas de soi du tout.
Ça ne va pas de soi du tout, disait Françoise Dolto, donc dans l'émission Agora. Il faut s'interroger, se questionner tout le temps. C'est ça, le destin des parents. En tout cas, depuis cette période, depuis les années 70, est-ce que c'est l'enfance qui a changé ou finalement la parentalité? Est-ce qu'on n'est pas rentré depuis cette période dans une forme d'intranquillité? Ce sujet, en tout cas quand on en parle à tous les parents, évidemment, il résonne dans les cœurs et les esprits. Caroline Eliachef.
Bah oui, tout a changé. Effectivement, c'est pas commode d'être parent aujourd'hui. Alors, je dirais une première raison, c'est que pendant des siècles, élever les enfants, c'était les élever comme on avait été élevé. Donc, c'était pas trop compliqué puisqu'il s'agissait de reproduire à l'identique ce qu'on avait connu. La deuxième chose, c'est que l'idéal de l'éducation, c'était l'obéissance. Donc, comment faire obéir les enfants, c'était relativement simple. Alors, l'idéal de l'éducation aussi a changé. L'idéal de l'éducation aujourd'hui, c'est l'épanouissement, l'autonomie, etc., etc. Donc, tout est effectivement compliqué, plus compliqué pour les parents qui réfléchissent, qui veulent bien faire et qui, chose également tout à fait nouvelle, veulent être aimés. Pendant des siècles, les parents se sont pas demandé si les enfants les aimaient. Les enfants devaient les respecter avec tout ce que ça impliquait. Mais l'idée qu'un enfant dise à sa mère « maman méchante » ou « papa méchant », ça les ébranlait pas du tout, alors qu'aujourd'hui, ça les ébranle. Donc il y a toute une série de facteurs, j'en passe encore certainement, qui font que oui, être parent aujourd'hui, c'est compliqué, que le rôle du père et de la mère évolue également. Enfin, tout a changé et donc, cela dit, il ne faut pas exagérer non plus. Voilà, les gens qui ont des enfants, oui, ils se posent plein de questions. Bon, enfin, grosso modo, j'ai envie de dire, ils y arrivent, quoi. Ils y arrivent comme nous, on y est arrivés, en faisant plus ou moins bien, plus ou moins mal. Voilà.
Oui, mais aujourd'hui, on parle d'école des parents. Il y a des ateliers de parentalité. Oui, il y a des consultations. Et vous êtes bien placée pour le savoir. Caroline Eliachef, vous en rencontrez, vous, des parents?
Ah oui, moi je rencontre des parents, effectivement, parce que s'occuper d'enfants, c'est s'occuper des parents. Mais j'ai envie de dire pour le meilleur, qu'on s'occupe des parents. Françoise Dolto, elle a dit à 5 ans, je vais être médecin d'éducation. D'une certaine manière, c'est ce qu'elle a fait. Alors, ça s'est appelé psychanalyste, parce que, elle a vécu à une époque, elle est entrée très jeune en analyse, etc. Mais... Si Marie Desplechin l'avait mis dans son livre et avait raconté son enfance, c'est quelqu'un qui, à 5 ans, a déclaré « je veux être médecin d'éducation » et qui, d'une certaine manière, a réalisé ça et qui a dit également à 8 ans « je suis venue trop tôt, dans un siècle trop vieux », alors qu'elle connaissait pas Musset, et elle a scotché absolument les adultes qui l'entouraient.
Parce que ce livre, Enfance, Marie Desplechin, on va y revenir à la fin, que vous publiez avec Claude Ponty, raconte le destin d'enfants qui vont devenir des adultes, parfois très connus, parfois non.
Ce livre est génial, je veux le dire. J'ai énormément apprécié.
Déjà, même si je le gardais justement pour la fin.
Par rapport à ce que vous disiez, il y a une chose qui m'a frappée en étudiant ces histoires d'enfants à travers les siècles. C'est que le fait que les parents élèvent leurs enfants est assez récent.
Très récent.
Jusqu'au 19e siècle, vous n'étiez pas censé élever vos enfants. Absolument. Et ça ne les empêchait pas d'ailleurs de grandir plus ou moins bien. Ils arrivaient plus ou moins qu'à bosser. Mais vous les envoyez en nourrice, déjà. Dès que vous aviez de l'argent, vous ne les éleviez pas. Non, ils n'étaient même pas dans votre maison. Ils étaient élevés par des nourrices, et puis dans des pensionnats, et puis à un moment, ils revenaient. Donc, cette idée, je vois cette idée changer à travers le temps, et l'idée du couple avec famille arrivait dans les années 1960. C'est extrêmement tardif. Où des parents sont censés élever des enfants et la responsabilité du développement de ces enfants leur incombe. Alors qu'avant, c'était pas du tout le cas. Et ça va avec toute une évolution des censés s'aimer dans les couples aussi. Mes grand-mères n'étaient pas censées aimer spécialement leur mari, si ça leur arrivait, c'était tant mieux. Déjà, le père et la mère doivent s'aimer, en plus, ils doivent aimer leurs enfants. Donc en fait, il y a une espèce d'énorme...
Qui doivent être désirés.
Et qui doivent les désirer, qui plus est. Alors, vous avez tout à fait raison. Il y a une espèce de changement anthropologique dans les années 60 qui va se passer extrêmement vite et où les enfants sont investis, c'est-à-dire qu'ils deviennent des objets précieux. Et là, effectivement, ça change tout et ça appelle, là-dessus arrivent des tas d'outils qui se sont créés dont les outils de la psychanalyse et donc le docteur Spock, qui ne paye pas les mêmes outils, forcément. Et il faut le lire comme ça aussi, cette histoire des enfants et des parents.
L'héritage de Dolto, ce serait d'avoir mis des mots et aider des parents de cette époque à mettre des mots aussi sur ces changements, Caroline Leschef?
Sur ces changements, pas vraiment, mais quand elle disait « je veux être médecin d'éducation », à 5 ans donc, son idée, déjà à l'époque, c'était d'aider les parents. Donc effectivement, on peut dire que dans son héritage, elle a aidé les parents. Pour parler de l'héritage de Dolto, voilà, le but de mon livre, en réalité, si j'y réfléchis a posteriori, parce qu'en écrivant, on pense pas tellement au but, c'était de dire, si vous vous posez la question de l'héritage de Dolto, qui est une question tout à fait légitime, peut-être auparavant, ça serait bien que vous sachiez ce qu'elle a fait. Voilà, parce qu'il n'y a pas que les émissions de radio, hein, elle a fait énormément de choses, donc. Si vous avez la curiosité avec vos yeux ronds de prendre connaissance de ce qu'elle a fait, ensuite vous allez pouvoir apprécier son héritage ou le déprécier, peu importe. Et surtout vous pourrez voir ce que vous avez intériorisé même sans le savoir de l'influence qu'elle a pu avoir à l'époque. Hein, mais voilà, avant de juger de l'héritage, peut-être faut-il savoir ce qu'elle a fait.
France Culture, Être et Savoir, Louise Touret.
So
Vous écoutez Être et Savoir sur France Culture. On vient d'entendre Damien Sangali, chaman. Et on parle de Françoise Dolto aujourd'hui dans Être et Savoir. Françoise Dolto qui n'était ni une magicienne, ni une chamane, encore moins, mais qui a beaucoup impressionné à l'époque par, non pas ses intuitions, Caroline Eliachef, mais une vue, une manière de voir, de déceler des problèmes, de trouver aussi des solutions. C'est souvent raconté et dans ses ouvrages et dans la description de sa clinique, ça a profondément marqué les mémoires. Jacques Pradel, alors je regardais dans des entretiens un petit peu anciens, dit quand il a travaillé avec elle, il lui a été donné de voir comme ça, l'avoir réglé des problèmes et même des problèmes personnels. Il parle aussi de la jeunesse de Françoise Dolto. Elle avait été infirmière et elle avait aidé une femme qui n'arrivait pas à donner son lait, et en la serrant dans ses bras et en lui faisant parler de sa propre enfance, elle avait réglé le problème. Et c'est souvent ces histoires de problèmes qu'on arrive à régler en quelques mots hyper rapidement qui sont aussi des histoires qui paraissent très étonnantes et qui sont très propres à la psychanalyse.
Écoutez, je crois que quand on s'occupe d'enfants, je crois qu'on a tous l'expérience d'avoir réglé des problèmes rapidement. Donc, elle le faisait, ça arrivait. Mais ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est que quand on règle un problème trop rapidement, c'est pas génial non plus. Voilà, c'est-à-dire ce qu'on apprend en pratiquant, c'est que le problème qu'on croit avoir réglé en une séance, on est content, on va le raconter aux copains, etc. C'est pas génial. Elle le savait aussi. Hein. Donc c'est pas ça qu'il faut mettre. Il faut mettre en avant ce qu'elle nous a légué à nous psychanalystes. C'est quand même une rigueur dans la prise en charge des enfants qu'on aurait pu apprendre, évidemment, et qu'on avait déjà. En particulier, moi, quand je l'ai rencontrée, j'avais déjà des règles très strictes. Mais le fait que quand nous avons un enfant en cure, en tant que psychanalyste, nous ne devrions intervenir en rien dans son éducation. Donc ça va exactement, ça va pas tout à fait, hein, avec la façon dont elle est perçue, effectivement, à la radio, etc., etc. Donc il y a deux aspects très très différents. C'est-à-dire, quelle psychanalyste était-elle? Elle était une psychanalyste incroyablement rigoureuse et qui avait comme clientèle, entre guillemets, pas trop ce mot, mais c'est quand même le cas, des enfants incroyablement atteints. C'est-à-dire les enfants de la pouponnière d'Antony, c'est ceux que j'ai repris.
Voilà, elle n'a pas travaillé dans des contextes faciles du tout.
Voilà, comme d'autres. Si vous prenez, j'ai entendu l'autre jour justement sur France Culture un portrait de Maria Montessori. totalement passionnant d'ailleurs, où elle racontait également qu'elle s'occupait d'enfants abandonnés, défavorisés, etc., etc. Et alors là, on revient à Françoise Dolto, mais la clinique qu'elle a tirée de ces enfants-là, c'est quand même très particulier. C'est pas le cabinet en ville où venaient les enfants du 5e arrondissement, là où elle habitait. C'est pas ça du tout. Voilà, donc ça joue énormément sur ce qu'elle nous a appris à nous psychanalystes.
Est-ce que... je peux souligner quelque chose.
Marie Desplechin.
C'est que dans l'influence qu'elle a eue quand même alors j'aurais du mal à situer précisément où je peux attaquer, mais il y a quand même cette idée selon laquelle on réussit son enfant ou on ne le réussit pas.
Là,
qu'on en est responsable. Il y a une phrase en disant. Si, je vous assure, je pourrais vous les retrouver, je vous les enverrai. Et que, en fait, le développement d'un individu est comme une forme de conséquence, et si les parents ont loupé quelque chose au départ, eh bien voilà, l'individu, vous le retrouvez. Ce qui me émeut énormément, c'est sur les enfants autistes et les enfants psychotiques. C'est-à-dire qu'il ait pu être admis par la majorité, l'esprit du bon sens, que ça pouvait être le défaut de la mère, sa froideur, la mère crocodile, la mère frigidaire, et elle a participé à ça. Et que ça puisse être soigné par la psychanalyse, et la psychanalyse exclusivement, puisque ça n'aurait pas été la psychanalyse à un autre endroit. Ça, je pense, ça a coûté extrêmement cher à énormément de familles pendant un certain nombre de dizaines d'années.
Vous soulevez un problème grave.
Qui participe de cette époque et de cette pensée. Oui.
Vous répondre sur la question de l'autisme où elle était située effectivement à une certaine époque où on disait en plus autisme et psychose étaient mêlés. On ne distinguait pas les deux. Et les psychanalystes disaient, et ils ont effectivement une lourde responsabilité, non pas celle de culpabiliser les parents qui n'ont pas besoin des psychanalystes pour être culpabilisés, mais on disait, la psychose est sur trois générations, il faut trois générations pour faire une psychose, etc. Elle disait également des autistes que c'était des êtres supérieurs qui avaient des perceptions que nous n'avions pas, et que, alors qu'elle savait pas plus que les autres les soigner, mais que ce qui était important, encore une fois, à l'époque, et avec les moyens dont on disposait à l'époque, de les mettre dans un contexte où ils soient le moins agressés possible. Ce qui n'était pas non plus tout à fait ce qu'on disait à l'époque. Donc, si vous voulez, quand vous dites qu'il faut une biographie et contextualiser, là aussi, il faut vraiment contextualiser.
Moi, je retire de la lecture de Françoise Dolto un intérêt profond pour les enfants qui avaient des types de problèmes psychiatriques assez lourds, un désir de comprendre, et de la part de la lectrice que je suis, quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la curiosité, mais qui m'éclaire sur ce qui peut se passer dans l'esprit d'un être tout petit, qui est traversé par des tempêtes, des conflits. Alors peut-être n'est-ce pas à la psychanalyse entièrement de les régler, parce que les problèmes psychiatriques peuvent avoir des sources tout à fait différentes, y compris biologiques. Mais c'est aussi l'acte de comprendre, et c'est ça qu'on peut retenir. Caroline Hennachef.
Oui, je crois que vous avez raison. Alors, moi, il y a une anecdote que j'aime bien parce que, tout vient de l'enfance, on va dire. Et par exemple, elle raconte que quand elle était petite, elle allait à Deauville, qu'on ramassait les crevettes et que elle entendait les adultes dire les crevettes aiment être cuites vivantes. Et elle se posait la question, elle disait, mais comment est-ce que les adultes peuvent savoir ce qu'aiment les crevettes? Et donc, elle demandait aux adultes, on lui disait ce qu'on a entendu un peu dans le livre que vous citiez tout à l'heure, mais pourquoi tu poses cette question, etc. Et je dis ça parce que c'est très caractéristique de cette façon de prendre les choses au pied de la lettre, qui lui a permis plus tard de comprendre pourquoi les enfants ne comprenaient pas et en même temps pourquoi ils comprenaient tout, mais de travers.
Ah, c'est ce qu'on voit dans ces études de cas. Enfin, je pense au cas Dominique qui est un des cas les plus
cas Dominique qui est un échec.
Il faut quand même.
Comme beaucoup des psychanalystes de Freud d'ailleurs. Voilà, on dit le cas Dominique où elle démarre sur cette phrase extraordinaire où je sais pas ce que lui lui dit, elle lui dit qui t'a rendu pas vrai. Et donc on dit mais comment elle sait ça? Et quand on lit ce cas qui est tout à fait intéressant, c'est quand même un gros échec.
Alors pour revenir aux parents comme nous aujourd'hui ou les parents des années 70 qui l'ont écouté à la radio, je vais vous faire écouter un extrait d'une autre émission. On va écouter encore un petit peu Françoise Dolto.
À côté de l'éducation victorienne, je connais des enfants qui sont beaucoup plus agressés en parole qu'ils ne le sont par une taloche de leurs parents, qui passent comme ça et les parents, bon, et puis c'est fini. Et puis ce n'est pas avec mépris, c'est parce que ils sont à bout de nerfs. Et être à bout de nerfs et ne pas pouvoir se maîtriser, c'est dommage. Mais surtout si on peut le dire à l'enfant après. Tu sais, je suis très mauvaise éducatrice, j'aurais pas dû te donner une paire de claques. Il y a des mères qui sont très capables de le faire et des pères aussi.
Mais s'il faut dire je suis très mauvaise éducatrice ou mauvaise éducatrice, ce qui dévalorise un petit peu.
Mais ça ne dévalorise rien du tout quand c'est dit. Ouais. Rien de ce qui est dit n'est dévalorisant. Ce qui est dévalorisant, c'est de ne pas parler avec un enfant.
Mm-hmm. Hein. Lui, dévalorisant pour les parents.
Pour les parents. Oui. Pour les parents. Quand le parent reconnaît son tort, en disant ben c'est bien dommage, qu'est-ce que tu veux, je n'arrive pas à me maîtriser, tu me mets les nerfs en plotte, tu le fais probablement exprès. Bon, ben, peu à peu, le père dit non, je ne veux pas marcher dans ton jeu, tu veux me mettre à bout, allez, va-t'en. Et puis c'est fini. Sinon, évidemment, ils entrent dans un jeu pervers où c'est l'enfant qui maîtrise son père. C'est le maîtriser que de tirer sur la cloche et que ça sonne. Il faut donc éviter. Moi, ce que j'essaye de faire dans cette éducation, c'est que les enfants deviennent autonomes par rapport à leurs parents à l'âge où ils peuvent le devenir, et être totalement autonome, c'est possible pour un être humain, entre 7 et 9 ans.
Françoise Dolto, en 1977, non pas à la radio, mais à la télévision, sur TF1. Alors, Françoise Dolto, donc, enjoint les parents à parler avec leurs enfants, mais à réfléchir avant. On peut s'excuser auprès d'un enfant. Vous l'avez dit, Caroline Hélachef, tout devient beaucoup plus compliqué.
On peut s'excuser pas trop, hein, parce qu'on a vu des parents, non mais je veux dire, là, elle l'a dit à l'époque, mais alors après, hein, on a vu des parents qui d'abord saoulent leurs enfants de paroles, tu vas prendre ton biberon, je vais faire chauffer le lait, etc.
Bah, c'est perçu comme ça aussi, l'héritage de Dolto.
Ben oui, justement, c'est pour ça que je dis, saouler ces enfants de paroles qui sont anodines, pourquoi pas, mais enfin, ça leur fait pas forcément du bien, et des parents qui tabassent et qui viennent s'excuser après, ça va aussi. Hein. Les parents qui s'excusent, pas trop, quoi. Donc, voilà, écoutez ça aussi. Françoise Dolto, quand on lui disait « mais vous voulez pas me dire comment il faut faire, etc. », elle disait « écoutez, je veux bien vous donner un conseil, mais vraiment, assurez-moi que vous n'allez pas le suivre. » Voilà, c'est fait aussi pour ça. Hein. Écoutez, réfléchir, ça vous convient, vous prenez, ça vous convient pas, vous lâchez, et vous essayez de faire à votre façon ce que font la plupart des parents.
In fine. Mais peut-être après être passé par beaucoup d'étapes et s'être culpabilisé, mais réfléchir tout de même, Marie Desplechin, c'est bien comme héritage de cette époque de Dolto et de Dolto elle-même.
Ah, mais moi, en écoutant ce qu'elle disait, je me disais quelle curieuse époque avant où on ne pensait pas qu'on pouvait expliquer quelque chose à un enfant en
voilà,
lui parler.
C'est vrai.
Et je me disais aussi, c'était une éducation extrêmement aristocratique que celle de parents. Qui, je ne sais pas, il y en a eu qui ont parlé à leurs enfants ou qui ont...
Les parents ont toujours parlé à leurs enfants.
Oui, il y a même des éducations particulièrement raffinées ou Condorcet ou qui ont fondé le développement d'un enfant avec lequel ils vivaient sur cette conversation et ce respect. C'est vrai que considérer que l'enfant est une personne, c'est une énorme avancée humaine.
Voilà, c'est pas d'elle, voilà. Hein, l'enfant, le bébé est une personne, c'est pas elle.
Mais tant mieux à cette époque. Je pense que c'est un progrès, c'est un progrès considérable.
Toute une époque et un mouvement, hein, parce que voilà, il y a eu d'autres psychanalystes avant.
Bien sûr. Mais si vous voulez, quand on dit parler à un enfant, hein, c'est pas pour lui dire n'importe quoi. C'est-à-dire, c'est dans les moments très difficiles, dans les graves épreuves de la vie, que à ce moment-là, il faut parler à l'enfant et lui dire ce qui le concerne, ce qui le concerne de la filiation, du devenir de ses parents, etc., etc. C'est à ces moments-là que c'est difficile et que il faut s'y mettre.
Des choses qui nous paraissent aller de soi, et c'est vous qui le dites, Caroline Hélachef, on ne s'aperçoit même pas de la distance du chemin parcouru. Aussi, grâce à Françoise Dolto, vous pensez vraiment qu'elle a été oubliée ou qu'elle est beaucoup moins présente aujourd'hui ?
Écoutez, non, moi je... Enfin, moi, ce qui m'a frappé, si vous voulez, c'est que mes belles-filles, qui sont des jeunes femmes de 30 ans, ouais, elles connaissent le nom, mais c'est tout. Donc, je me dis, mon œuvre de transmission n'est franchement pas très réussie. Alors, c'est normal, au bout de 30 ans, il s'est passé tellement de choses. On pense pas à Françoise Dautou tous les matins. J'en fais pas une maladie, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas à en faire une maladie. Quand on pense aux maisons vertes, qui sont vraiment une invention extraordinaire.
Alors, on explique les maisons vertes.
Qui est un lieu d'accueil parents et enfants pour les enfants de 0 à 3 ans. Il en existe dans le monde entier, dans tous les quartiers de Paris, dans toutes les villes de province. Mais ça ne s'appelle pas maison verte. Chaque établissement a trouvé un nom. Donc, les gens viennent là. Ben non, ils ne savent pas que c'est Françoise Dautou et d'autres qui ont eu cette idée. Voilà, ça ne me paraît pas monstrueux.
Pour la toute petite enfance, hein, on peut le préciser, les maisons vertes, c'est avec les bébés. Alors, il y a peut-être des effets de génération si on est né dans les années 70 comme moi. C'est vrai que peut-être on est d'une génération où ça a plus compté et puis ça va plus compter
mais
après.
Ça compte énormément
pour l'éducation
les maisons vertes, mais
on ne sait pas
qu'on les lui doit, mais c'est pas grave.
Et du côté de la psychanalyse, alors tout à l'heure on parlait du cas Dominique, alors il faut peut-être qu'on précise, hein, donc c'est un ouvrage de Françoise Dautou sur un cas précis qui est un de ses ouvrages les plus célèbres, d'une petite fille qui souffre d'un petit garçon
qu'elle prend en analyse et elle raconte les je crois 12 séances d'analyse de ce garçon.
Voilà, donc la précision étant donnée sur ce cas, oui, l'héritage dans la psychanalyse aujourd'hui de Françoise Dautou.
Alors c'est assez difficile à dire parce que elle n'est pas enseignée à l'université, ça c'est très clair. Bon, il faut dire que je pense que c'est pas particulièrement dirigé contre elle. Hein. Il faut être voilà la psychanalyse pour enfants est très peu enseignée à l'université et encore moins s'agissant d'elle. Donc effectivement, pour la transmission, c'est un petit peu compliqué. Mais elle a formé un nombre considérable de psychanalystes et de personnes qui s'occupent d'enfants et qui eux-mêmes transmettent. Mais c'est assez... ça se passe de façon assez informelle. Donc, je pense que l'influence est grande et je pense qu'elle n'est pas formalisée et que, voilà, chacun... toutes les personnes qui ont reçu de son enseignement, normalement, enfin, quand on est normalement constitué et qu'on a beaucoup reçu, on essaie de transmettre. Mais c'est certainement pas à l'université que ça se passe. Dommage, d'ailleurs.
Et donc, toujours du côté non académique, Marie Desplechin, est-ce que cette façon, et c'est vraiment une question sérieuse, hein, de considérer les enfants et les rapports entre les parents et les enfants et les familles, est-ce que finalement on s'est pas mis aussi à les décrire différemment et dans la littérature et dans les œuvres qui s'adressaient aux enfants? L'École des loisirs, c'est quand même une maison d'édition à laquelle vous écrivez et qui a publié des livres qui ont été totalement différents de ce qui s'est publié les périodes précédentes à partir des années 70.
Oui, mais je ne pense pas que ce soit... Je pense que ça appartient à l'époque, je ne pense pas que ça appartient à Dautou. Et je suis très, très dubitative et perplexe que l'image Dautou obscurcisse d'une certaine manière à l'époque. L'École des loisirs, elle a aussi changé la littérature en France grâce à l'action de certaines personnes, voilà, comme Geneviève Brisac, son souci éditorial de qualité littéraire, et aussi par la traduction d'ouvrages anglo-saxons qui étaient d'Europe du Nord, qui avaient de l'avance, disons, ou une production bien plus intéressante que ce qui se passait en France à ce moment-là, qui était plus... Mais la statue donc de Dautou, je pense, empêche de voir ce qui se passe, et j'attends avec impatience le moment où, à la lumière de toutes ces archives, et encore une fois, dégager du devoir de piété, qui est vraiment une chose que je comprends, ou de loyauté, eh ben, où est-ce qu'il en était réellement ?
Bon, on n'a pas été trop dans cette direction dans l'émission. Il y a quand même une question d'actualité que je voudrais vous poser, parce que on lisait cette semaine que le réseau européen de défenseurs des enfants s'est penché sur la santé mentale des jeunes en France et en Europe. Une enquête alarmante a été publiée. Il y aurait urgence à agir. En fait, il n'y a tout simplement pas assez de psychiatres et de psychanalystes et de centres auxquels on peut s'adresser, les centres médicaux pour l'enfance en France. Est-ce que là, finalement, l'héritage n'est pas complètement trahi quand on sait que les besoins sont énorme et...
Alors là, on passe un petit peu à autre chose. Bon, moi, je suis pédopsychiatre, j'ai dirigé un CMP pendant 25 ans, donc je veux dire, la pédopsychiatrie est en déshérence totale. C'est une pure catastrophe, ce qui se passe. Alors, la psychiatrie, déjà pour adultes, et encore pire, la pédopsychiatrie, ont été de tout temps les parents pauvres de la médecine, mais là, on arrive vraiment à une situation purement catastrophique. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a eu d'abord des avancées, c'est-à-dire les CMP ouverts partout, la pédopsychiatrie gratuite, ce qui était quand même formidable. Et juste, pendant ces dernières années, on a vu le nombre de personnes augmenter de façon considérable. Dans le CMP que je dirigeais, c'était 10 à 12% de consultations en plus tous les ans à moyen égal. Donc à un moment, ça explose. Aujourd'hui, quand vous allez dans un CMP moyen, vous avez 6 mois, voire 12 mois d'attente, ce qui est monstrueux. Les parents appellent, ils ont un problème, il faut répondre dans la semaine, voire dans la journée. Voilà, donc on peut espérer que le plan santé se penchera sur cette situation, mais vraiment ne pas mettre le paquet pour les enfants, la pédopsychiatrie en particulier aujourd'hui, c'est monstrueux, quoi.
Ne manquerait-on pas d'une grande voix pour défendre la cause des enfants, finalement ? Une grande voix médiatique, voix qui porte ?
Oui, probablement, mais si vous voulez, la cause des enfants, alors c'est pas seulement la pédopsychiatrie, la cause des enfants, c'est l'éducation, c'est les crèches, c'est l'accueil, ça commence à la maternité et même avant, c'est l'accueil de nouveau-nés, etc. Donc c'est très vaste, et effectivement, ne pas prendre en compte le fait que ces enfants vont devenir les adultes de demain et que nous avons à leur offrir le meilleur de ce que nous pourrions leur offrir, ça va. C'est pas une société qui s'occupe de ses enfants.
Marie Desplechin, est-ce qu'on ne manque pas de voix qui porte pour parler des enfants aujourd'hui ?
Je pense que toute notre voix, enfin moi je ne crois pas, je me méfie des providences et je pense que beaucoup de voix existent. Voilà, Caroline, vous parlez, je ne sais pas, ou je pense à Marie-Rose Moreau par exemple.
Bien sûr.
Il y a des gens qui font
Marie-Rose
des choses.
Marie-Rose Moreau qui dirige la maison de Solène.
Oui,
entre autres, un espace pour accueillir les adolescents.
Donc en fait, je pense que ça va être plutôt la multiplicité des voix et puis aussi pas seulement les sachants ou les praticiens, c'est-à-dire... Beaucoup de parents peuvent avoir un enfant qui va tomber malade et ça va être, ou alors qui va avoir ce qu'on appelle des problèmes, ça va être compliqué. Et le jour où ils vont chercher de l'aide ou quelqu'un, voilà, ce jour-là, ils n'auront rien. Je pense que ça devrait demander une mobilisation beaucoup plus ample que quelques voies providentielles.
Eh bien, ces voix, on essaie en tout cas de les relayer dans Être et Savoir. Et puis, on va aussi indiquer à nos auditeurs qu'ils peuvent vous lire Caroline et la chef. Françoise Dolto, Une journée particulière, c'est publié chez Flammarion. Très intéressant pour connaître vraiment l'œuvre, la vie, le travail de Françoise Dolto. Et puis, Marie Desplechin, vos nombreux ouvrages, beaucoup d'enfants les aiment beaucoup, je le sais. Voilà. Et puis, ce dernier ouvrage en date, on va en reparler tout de suite. Enfance avec Claude Ponty, qu'on va retrouver dans un instant, et bien dans la leçon de choses. La leçon de choses de Sophie Bobert. Comment se défaire d'une enfance marquée par un lien entre violence et savoir, regard sur une résilience avec l'illustrateur Claude Ponty qui a rêvé beaucoup et s'est enfui grâce à son imagination et grâce à la culture.
J'ai commencé à 3 ans à avoir des choses compliquées à vivre. Je pense qu'en fait, je suis un très mauvais exemple de la chose, sauf si on considère que j'ai eu cette chose exceptionnelle d'avoir cette espèce de rage de survivre à n'importe quoi et que à un moment... Personne m'empêcherait d'être ce que je voulais être. J'étais surtout, dans le langage courant, très imaginatif, très capable d'être seul très longtemps, sans jamais m'ennuyer. J'ai toujours été occupé à inventer à des choses, à me balader du regard ou de la peau, ou de la, ce qui fait aussi que la vie peut être beaucoup plus facile.
Vous avez grandi à la campagne, dans l'est de la France, dans une famille, dans une fratrie de trois, je crois, entre un papa qui travaille dans une papeterie et une maman institutrice. Et je crois, Claude Ponty, que dans vos souvenirs d'école, il y a cette année durant laquelle vous avez été l'élève de votre mère, en fait.
Oui, c'est ma pire année scolaire. Je souhaite à personne, non pas d'être dans la classe de sa mère, mais d'être dans la classe de ma mère. C'était violent, désagréable et contre-productif, comme on dit aujourd'hui. C'est vraiment la pire année de ma scolarité.
Mais est-ce que, lorsque vous parlez de violence par rapport au fait d'être l'élève de votre mère, est-ce qu'il s'agit d'une violence au regard des autres élèves ou par rapport à elle, à ce qu'elle attendait de vous ?
Alors, il y a trois types de violence. C'est que ma mère était inscrite à la maison et à l'école. Donc, il n'y avait pas de quartier. Le deuxième type de violence, c'était que c'était physiquement violent. C'est-à-dire, ma mère a été capable de m'attraper par un pied et de me traîner dans la classe voisine pour me punir chez la directrice pour que j'aille faire le cours de gym avec les filles parce que je crois que c'est ce qui me révoltait le plus, c'est que ma mère considérait que en tant que garçon, je devais être humilié d'être avec des filles. Alors, il me semblait qu'elle était elle-même une fille. Et la troisième violence, c'est la violence du savoir et de l'incompréhension. J'étais probablement dyslexique, j'étais certainement très lent à écrire, mais c'est une violence qu'il faut relativiser, hein. C'est que l'enseignant que j'ai eu avant, alors lui, il entretenait une mare d'eau derrière le piano dans la classe, il nous emmenait derrière et il nous disait, tu vois, là, c'est toutes les larmes qu'ont pleuré le précédent que j'ai frappé. Quant au suivant, quand on a été à la campagne, alors j'ai quand même vu le directeur de l'école jeter dans un bassin d'eau glacée un élève qui ne lui plaisait pas. Donc je crois que tous les gens de ma génération ont connu cette violence, à la fois de la connaissance, de l'autorité du savoir et de l'autorité gendarmesque, quoi.
Et vous rêviez de quoi, vous, enfant, vous, l'élève, hein, Claude Ponty, de 7-8 ans ?
Alors, 7-8 ans, j'avais déjà décidé que je serais peintre. Donc, je rêvais à rien, je voulais juste être peintre. D'abord, j'étais très curieux de ces choses-là. Ensuite, c'est l'autre aspect, un des aspects positifs de ma mère. C'est qu'elle nous emmenait effectivement dans les musées. Elle ratait aucune occasion de nous apprendre. Je dis toujours que rien au monde ne peut empêcher un enseignant de transformer absolument n'importe quoi en matériel pédagogique. C'est le cas de ma mère. Tout était, quand on était petit, l'occasion de nous enseigner quelque chose et d'apprendre. Donc, à partir du moment où, quand j'étais enfant, on s'est aperçu que je dessinais bien, on m'a encouragé, en tout cas verbalement. Ça s'est aggravé quand ils sont aperçus que je voulais rien faire d'autre. Mais un enfant, c'est pas dangereux quand il dessine. Jusqu'à un certain âge, c'est pas dangereux. Il passe son bac et puis son gag, je veux dire, c'est pareil. Et après, il dessine le dimanche. Donc, j'ai effectivement été dans des musées, j'ai visité des châteaux, j'ai fait tout ça. C'est déjà dire que moi, je suis une génération pratiquement sans télé dans l'enfance, sans vidéo, sans reproduction accessible facilement et tout. Donc, à l'époque, la découverte des originaux, c'était un éblouissement extraordinaire. Oui.
Et il faut regarder des enfants, écouter ou lire des albums de Claude Ponty pour comprendre le génie de ce grand artiste. Lisez-le, vous aussi. Marie Desplechin, on vous retrouve d'ailleurs dans la leçon de choses de la semaine prochaine à la suite de Claude Ponty, puisque nous avons beaucoup aimé l'ouvrage que vous publiez avec lui. Enfance, un livre, on l'a dit, qui raconte les enfances de personnages remarquables, célèbres ou non. Je remercie toute l'équipe d'Être et Savoir, Somanina à la réalisation, Jean-Frédéric à la prise de son et à Avril Ventura qui m'aide à préparer et concevoir ces émissions. Le podcast de la leçon de choses et ceux de tous les êtres et savoirs sont disponibles pour toute la vie, en fait, sur Internet. Et puis les références des ouvrages cités sont sur le site de l'émission sur franceculture.fr. Je vous souhaite à tous une excellente soirée sur notre antenne.